VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du vendredi 23 octobre 2020. Abdourahmane Dia, la présentation, voici les titres. Ici aux États-Unis, Donald Trump et Joe Biden ont eu leur dernier face-à-face avant la présidentielle du 3 novembre. Au Burkina Faso, 13 candidatures ont été retenues pour la présidentielle du 22 novembre. L'ancien président burundais Pierre Buyoya fera appel de sa condamnation à perpétuité par contumace. Les protagonistes du conflit libyen ont signé à Genève un cessez-le-feu avec effet immédiat. L'actualité sportive dans ce journal, ce sera avec Yacouba Ouedraogo. Mais tout d'abord, le journal. Et nous démarrons par notre édition spéciale consacrée à la présidentielle américaine. Le président Donald Trump et son challenger démocrate Joe Biden ont croisé le fer hier soir à Nashville, dans le Tennessee, dans leur second et ultime débat de la campagne présidentielle. Mike O'Sullivan de la VOA fait le point et c'est un récit de Lionel Gaïma.
Le second et le dernier duel télévisé est intervenu à quelques jours des élections du 3 novembre. Premier sujet, bien sûr, le Covid-19. Le président Donald Trump.
C'est une pandémie mondiale. C'est partout dans le monde. Vous voyez les pics en Europe et dans beaucoup d'autres endroits en ce moment.
Trump ajoute qu'un vaccin serait bientôt prêt, mais pour Joe Biden, c'est trop tard pour les plus de 220 000 Américains décédés.
Quiconque est responsable de ces nombreux décès ne devrait pas rester président des États-Unis d'Amérique.
Et chaque candidat a accusé l'autre de corruption. Le président Trump faisant allusion aux relations commerciales du fils Hunter Biden en Ukraine et en Russie.
Tous les emails, des emails horribles sur la masse d'argent que vous amassiez, vous et votre famille. Hey Joe, vous étiez vice-président alors que cela se produisait.
Joe Biden a aussi rejeté cette accusation.
Je n'ai jamais pris un centime d'aucune source étrangère dans ma vie. Nous apprenons que ce président a payé 50 fois plus d'impôts en Chine, qu'il a un compte bancaire secret en Chine et fait des affaires en Chine.
Donald Trump répond que le compte bancaire chinois n'est pas secret et qu'il a fait des affaires dans le monde entier. Il a nié les informations selon lesquelles il a payé peu ou pas d'impôts aux États-Unis ces dernières années.
J'ai prépayé mes impôts au cours des dernières années. Des dizaines de millions de dollars, j'ai prépayé.
Ce débat intervient alors que les renseignements américains mettent en garde contre des tentatives d'ingérence étrangère dans ces élections. Joe Biden attaque.
La Russie a été impliquée, la Chine a été impliquée dans une certaine mesure et maintenant nous apprenons que l'Iran est impliqué.
Trump réplique qu'il a résisté aux pays rivaux.
Parce qu'il n'y a eu personne de plus dur envers la Russie, personne de plus dur que moi contre la Russie, entre les sanctions et tout ce que j'ai fait avec l'OTAN. Vous savez, j'ai demandé aux pays de l'OTAN d'investir 130 milliards de dollars supplémentaires à 420 milliards de dollars par an. C'est pour se prémunir contre la Russie.
En l'absence du vainqueur clair, ce débat certainement ne changera pas la vie de nombreux électeurs. Plus de 50 millions d'Américains, selon le comptage de US Elections Project, établi par l'Université de Floride. Plus de 35 millions ont déjà voté par correspondance et plus de 15 millions l'ont fait en personne. Biden mène dans les sondages et la course se concentre désormais sur une poignée d'États décisifs qui pourraient décider des résultats de l'élection le 3 novembre.
Et pour une analyse sur le débat d'hier, John Lindon a joint ici à Washington Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines.
Je vois pas un grand changement dans le discours des deux candidats. Le président Trump a accusé M. Biden comme il était vice-président pour M. Obama pendant 8 ans et dit que vous n'avez pas rien, pas fait grand chose pour le peuple américain, même votre loi sur la santé, ça n'a pas aidé beaucoup de gens. Et vous-même, Biden, vous avez la criminalité dans votre famille. Sur l'autre côté, Biden a dit accuser Trump pendant 4 ans de mal gérer la pandémie. Nous avons 250 000 Américains qui sont morts à cause de la pandémie. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mal géré pire que tous les autres pays. Donc, je ne vois pas grand changement. Et comme Biden est loin en avant dans les sondages, je ne crois pas que le président Trump a rattrapé à cause de ce débat.
Alors, vous parlez des sondages. Effectivement, Joe Biden est en avance dans plusieurs États. Mais on se souvient de 2016. Hillary Clinton était également en avance sur les sondages, mais ça avait mal tourné. Est-ce que ça peut se répéter cette année, selon vous?
Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible parce qu'il y a encore 2 semaines et beaucoup de gens qui votent n'ont pas encore décidé. Donc, ce n'est pas impossible. Mais cette fois-ci, en comparaison avec 2016, Biden est beaucoup plus en avant que Hillary Clinton à l'époque. Elle est menée par 2-3 points. Maintenant, Biden mène par 10-11 points. Donc, si je dois mettre l'argent pour parier, je crois que c'est fort possible que Biden va gagner.
C'était l'ancien diplomate américain Herman Cohen. Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a finalement retenu 13 candidats pour la prochaine présidentielle. Le président sortant, Roch Kabore, va affronter Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, Eddy Kamboigo de l'ancienne majorité, Isaac Zeda, l'ancien premier ministre de la transition, pour ne citer que ceux-là. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Sur les 14 prétendants au fauteuil présidentiel, seul Haruna Kindo du Mouvement des intellectuels pour le développement a été écarté. Ils seront donc 13, y compris le président sortant Roch Kabore. Ainsi en a décidé le Conseil constitutionnel. Le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré, 61 ans, candidat malheureux à la présidentielle de 2015, tout comme Tayuru Bari, 45 ans, ancien ministre arrivé 3e, sont sur la liste publiée jeudi. Eddy Kombeugo va représenter l'ancienne majorité, le parti de Blaise Compaoré. En exil au Canada et pour suivi pour désertion de l'armée en temps de paix, l'ancien premier ministre de la transition Isaac Zeda, 55 ans, est aussi retenu. L'homme qui s'est attribué le grade de général à la fin de la transition en 2015 vit au Canada depuis 5 ans. Également ancien premier ministre de Compaoré, Kadré Désiré Ouédraogo est en lice pour la conquête du palais de Kossiam. Monique Kam, 47 ans, est la seule femme retenue pour cette présidentielle. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le réseau Internet est fortement perturbé en Guinée, en proie à de fortes tensions post-électorales. NetBlocks, qui surveille de telles coupures, en particulier en lien avec la politique, a expliqué soupçonner l'action de l'État guinéen. Les Guinéens attendent la publication des résultats de la présidentielle de dimanche. Au Nigeria, les forces de sécurité reprennent progressivement le contrôle de la ville de Lagos, où des coups de feu sporadiques ont été encore entendus ce vendredi, après 3 jours de violence et de contestations populaires. Des officiers de police patrouillent dans les quartiers de la ville pour assurer la sécurité de ses habitants. « Vous êtes priés de rester chez vous », a indiqué la police dans un tweet quelques heures après le discours du président Muhammadu Buhari. Nous reviendrons sur la situation au Nigeria en partie magazine. L'ex-président burundais Pierre Buyoya a annoncé ce vendredi qu'il allait faire appel de sa condamnation par contumace au Burundi à la prison à perpétuité pour l'assassinat de son prédécesseur Melchior Ndadaye en 1993. On écoute Pierre Buyoya au micro de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est que son procès, donc la réouverture du dossier de l'assassinat du président Ndadaye, l'a été en violation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Parce que ce dossier, suivant cet accord, devait aller non pas devant les tribunaux, mais devant la commission vérité-réconciliation. C'est ça qui avait été convenu au moment de l'accord. Donc cette affaire, c'est aussi une violation de l'accord d'Arusha. Alors, qu'est-ce que j'en dis en conclusion? Il s'agit d'un dossier fabriqué, mené, je pourrais dire, à huis clos, pour des raisons purement politiques. Pour condamner des gens qui appartiennent au régime précédent, qui se présentaient là-bas pour faire face au procès et qui voudraient un suicide. Je n'ai pas envie de me suicider.
En Libye, les deux parties rivales qui s'affrontent pour le contrôle du pays s'accordent pour un cessez-le-feu permanent avec effet immédiat. Leurs représentants ont signé un accord aujourd'hui à Genève après 5 jours de discussion sous l'égide des Nations Unies. Le point avec Mohamedou Oumfa.
L'accord entre le gouvernement d'Union nationale, le JNA, reconnu par l'ONU et basé à Tripoli, et les autorités de l'Est, alliées du maréchal Khalifa Haftar, a été signé ce matin au siège de l'ONU à Genève. Les parties rivales ont convenu que toutes les unités militaires et les groupes armés sur la ligne de front doivent retourner dans leur camp. Cela sera accompagné du départ de tous les mercenaires et combattants étrangers de tout le territoire libyen dans un délai maximum de 3 mois à partir de ce vendredi. C'est l'aboutissement d'un processus qui dure depuis des mois avec une cessation provisoire des hostilités parfois violées sur le terrain. Mais les négociations interlibyennes se sont accélérées ces dernières semaines pour définir les conditions d'un cessez-le-feu durable. Pour la population, épuisée par les combats et les divisions, ce cessez-le-feu permanent est une lueur d'espoir. Le secrétaire général de l'ONU, l'Union européenne, l'Allemagne et l'Italie, ancienne puissance coloniale, ont salué l'accord en espérant qu'elle facilitera la reprise des négociations politiques. Mais la Turquie, qui soutient militairement le JNA, a mis en doute la viabilité du cessez-le-feu. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré que l'accord semble manquer de crédibilité.
Donald Trump a annoncé ce vendredi la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Soudan. Des journalistes ont pu assister dans le bureau ovale à une conversation téléphonique entre Donald Trump et les dirigeants israéliens et soudanais. Juste avant, l'exécutif américain avait annoncé l'intention de Donald Trump d'enlever Khartoum de la liste des États soutenant le terrorisme. Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a remercié Donald Trump lors de l'appel, saluant l'impact majeur que cette mesure aurait sur l'économie soudanaise.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont sanctionné les gardiens de la révolution, l'armée idéologique de Téhéran, ainsi que des médias iraniens pour tentative d'ingérence dans les élections américaines du 3 novembre. En réaction, l'Iran, qui a rejeté ces accusations, a annoncé des sanctions contre l'ambassadeur américain en Irak, Matthew Tuller, accusé d'avoir commis des actes terroristes contre les intérêts iraniens. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Passons maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir à tous. La demi-finale retour entre Al Ahly SC et le Wydad se joue ce soir au Caire. À l'aller, à Casablanca, les Égyptiens se sont imposés 2-0. L'autre demi-finale retour qui devait se jouer demain samedi entre le Raja et le Zamalek a été reporté au 1er novembre en raison de cas de Covid-19 dans l'équipe marocaine. Le Raja a perdu à domicile 0-1 lors du match aller. La CAF a été informée mardi de 8 cas de Covid-19 parmi les joueurs du Raja de Casablanca et du confinement du club jusqu'au 27 octobre, écrit l'instance africaine dans un communiqué. La finale est maintenue pour le 6 novembre. La phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2021 se prépare activement. Dans le cadre de cette préparation, la semaine prochaine, l'équipe nationale A' du Mali livrera 2 matchs amicaux internationaux à Niamey au Niger, des matchs qui, du point de vue du coach Noum Diané, permettront d'évaluer le niveau individuel et collectif de ses joueurs. La correspondance de Siaka Traoré depuis Bamako.
C'est le stade général Seyni Kounté de Niamey qui abritera ces 2 rencontres des poulains du coach Diané. D'abord face au Ménin, l'équipe du Niger, le mercredi 28 octobre 2020. Ensuite, 3 jours plus tard, le 31 octobre, face aux Marocains. Ces deux pays sont comme le Mali, eux aussi qualifiés pour le CHAN Cameroun 2021. Pour l'entraîneur malien, ces matchs sont très importants pour la préparation du groupe, d'autant plus qu'ils se déroulent à l'extérieur. Un match amical international n'a pas le même enjeu qu'un match amical à domicile. Les 2 rencontres lui permettront d'évaluer d'une part le niveau individuel des joueurs et d'autre part le collectif. À l'issue de l'étape de Niamey, le coach Diané aura donc l'idée d'une équipe pour le CHAN, puisqu'il n'a pas encore arrêté la liste définitive qu'il conduira au Cameroun. Le Mali partage la poule A avec le Cameroun, pays hôte, le Burkina Faso et le Zimbabwe. Initialement prévu pour avril 2020, le CHAN a été reporté pour 2021. Il aura lieu du 16 janvier au 7 février. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Merci Yakuba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Nigeria, c'est la déception après la sortie hier soir du président Muhammadu Buhari suite aux manifestations des jeunes contre les brutalités policières qui ont fait des dizaines de morts et des dégâts matériels importants. Une bonne partie des Nigériens n'ont pas été convaincus par le chef de l'État. Le reportage de Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Après plus de 10 jours de manifestations des jeunes en colère, la sortie du président Muhammadu Buhari était très attendue et longtemps réclamée, mais elle n'a pas convaincu. Oladimeji Fabiyi, un jeune Nigérian.
On s'attendait à ce que le président fasse plus d'efforts pour mieux faire. Vous voyez bien la déception après son intervention d'hier. Le discours ne peut pas apaiser la colère des Nigérians et des jeunes ainsi que des manifestations de nos populations.
Dans son discours, le président Buhari a refusé de parler de la répression sanglante des manifestations par les forces de sécurité. Les militants des droits humains n'ont pas apprécié le silence du président sur cette question. Hidayat Hassan du Centre pour la démocratie et le développement.
Il a refusé d'évoquer les tueries au pillage de Lekki à Lagos qui a provoqué une indignation mondiale. Il a refusé de s'incliner devant la mémoire des jeunes Nigérians qui sont morts depuis le début des manifestations.
Dans son discours, le chef de l'État a essayé d'être équilibré, reconnaissant que les manifestations des jeunes sont légitimes, mais qu'elles ont été mal orientées par la suite. Il n'a rien dit sur d'éventuelles enquêtes ni poursuites des responsables de ces tueries. Pour Djibril Ibrahim, professeur de sciences politiques, le président n'a pas convaincu.
Parce que ces gens-là qui ont commencé les protestes, c'est pas eux qui ont fait des violences. Il y a une infiltration de d'autres qui ont des programmes outre que celui de cette jeunesse. Finalement, je ne pense pas qu'il a vraiment convaincu.
Le président nigérien a appelé à la fin des manifestations, promettant l'engagement de son gouvernement à répondre aux demandes des jeunes. Pour atteindre cet objectif, écoutons Babagana Munguno, conseiller du président en matière de sécurité nationale.
If the atmosphere is not conducive for dialogue,
si l'atmosphère n'est favorable au dialogue et à la compréhension, il ne peut y avoir une résolution paisible. Les forces de sécurité ont reçu l'ordre d'employer le maximum de retenues, mais les jeunes doivent aussi comprendre que parfois, en poussant un peu trop, cela peut aussi aboutir à des situations indésirables.
Les anciens présidents Goodluck Jonathan et Aboubakar Salami ont été reçus ce vendredi par le président Buhari à la résidence présidentielle à Abuja. Rien n'a filtré de cette rencontre, mais les observateurs estiment que le président pourrait solliciter l'intervention de ses prédécesseurs pour aider à calmer la situation. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Les affrontements intercommunautaires qui ont commencé lundi dans et autour de Dabou ont fait au moins 11 morts. Une trentaine de personnes sont mortes depuis le mois d'août dans des violences liées à la présidentielle du 31 octobre. Le secrétaire général de l'ONU a appelé au rejet des discours politico-ethnicistes. Yakuba Ouédraogo a joint André Silve Conan, analyste politique.
Malheureusement, la cartographie sociologique de la crise des violences à Tabou fait penser qu'il y a effectivement un glissement intercommunautaire sur la base de ce que nous avons pu voir dans cette localité. Mais ce n'est pas que l'apanage de Tabou. Il y a aussi eu des violences d'ordre communautaire à Bonnois, dans le fief de Simone Gbagbo, à Daokro, à Bongwanou, à Gagnois. Voilà, donc malheureusement, il y a cette forme de glissement intercommunautaire dans certaines localités, pas toutes.
L'opposition a lancé le mot d'ordre du boycott de l'élection du 31 octobre. Le pouvoir a tendu la main, proposant une réforme de la commission électorale. Pourquoi jusqu'à présent l'opposition refuse ?
J'ai cru lire qu'ils estiment que le gouvernement qui est parti donc à la campagne électorale n'est plus légitime pour convoquer donc une réunion, et ils en appellent à une médiation neutre et impartiale de certaines personnalités de certaines instances internationales et sous-régionales. En tout cas, ce qui me concerne, c'est que je pense que il faut aller au dialogue pour parvenir à un consensus.
Justement, en parlant de dialogue, il y a celui initié par la CEDEAO et rejeté par l'opposition, qui dit ne pas vouloir d'une médiation de cette institution ouest-africaine. Sait-on pourquoi ?
Je ne maîtrise pas très bien les contours de sa stratégie. Ce que je sais, c'est que la CEDEAO, dans le cadre de sa politique de prévention des conflits, a été toujours au centre de suspicions en Afrique. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali tout récemment. Cette institution n'inspire pas beaucoup confiance dans ce sens que très souvent, elle donne l'impression qu'elle épouse la cause des dirigeants au pouvoir.
On sait ce qui s'est passé après la crise post-électorale de 2011 avec ses 3000 morts toujours en mémoire. Est-ce qu'il faut craindre qu'avec ce mot d'ordre de boycott de l'élection lancée par l'opposition le 31 octobre, il n'y ait pas d'élection ?
À mon avis, il y aura élection si le président Alassane Ouattara maintient l'élection. Et manifestement, comme il le répète lui-même, l'élection est maintenue jusqu'à preuve du contraire. Dans la constitution ivoirienne, il y a plusieurs dispositions qui peuvent amener à un report de l'élection, comme le fait que les résultats issus donc de l'élection ne soient pas de nature à être conformes avec la volonté populaire, donc les suffrages. Ce qui fait que s'il y a des violences qui sont concentrées sur une bonne partie du territoire, eh bien, ces élections-là pourraient soit être discréditées, soit être reportées. La balle se trouve dans le camp du président Alassane Ouattara, qui pourra décider de façon souveraine s'il décide de maintenir l'élection dans ce climat actuel, ce qui n'augure rien de bon pour la démocratie, ou s'il maintient cette élection en dépit donc des violences nées de sa volonté de se représenter un troisième mandat.
C'était André Silve Collant, joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24 heures sur 24.
L'opposition et la société civile tchadienne demandent à la Commission électorale nationale indépendante de proroger l'opération de révision du fichier électoral qui a pris fin le 20 octobre dernier, ceci pour permettre à plus de Tchadiens de s'inscrire sur les listes électorales. Mais la CENI n'a toujours pas répondu favorablement à cette demande. Le reportage en Ndjamena d'André Kolmajingar.
L'opération de révision du fichier électoral concerne les Tchadiens qui ont atteint la majorité électorale de 18 ans et ceux qui n'ont pas été enrôlés en 2015 ou des électeurs qui ont changé de résidence. Beaucoup d'observateurs mettent en cause le manque de compétences au sein de l'opérateur biométrique.
L'inefficacité des agents sur le terrain qui semblent ne pas maîtriser les systèmes informatiques. Les appareils informatiques utilisés sont de mauvaise qualité. Le manque d'informations sur le processus d'enrôlement.
Garassal Saham Jacques, coordonnateur national de la campagne Tournons la page et section du Tchad. Au vu de ce constat, son organisation demande à la CENI un report de 3 semaines pour permettre à la population concernée de se faire enrôler. En revanche, Abdraman Diasnaba est président du parti Alliance Tchadienne pour le développement et la démocratie, membre de la majorité présidentielle, appelle au calme.
Nous avons interrogé les BP qui est l'opérateur technique avec la CENI jusqu'à 65%. Leur objectif c'était 60% d'après les estimations qu'ils ont faites. Donc dans tous les cas, nous avons fichier de 6 millions qui existe, de 1 million et 300, peut-être sera plus de 7 millions sur les 16 millions de la population du Tchad. Bon, c'est largement suffisant pour faire des élections.
Aladon Balthazar Jarman, président du parti Action Socialiste Tchadienne pour le Renouveau, un parti d'opposition, estime que la classe politique dans son ensemble s'est fait piéger.
Piéger dans le sens où il y a la saison pluvieuse qui ne s'est pas retirée, ce qui a entraîné l'inaccessibilité des kits dans certaines zones. En plus de cela, la classe politique aussi a manqué un devoir, c'est celui-là de procéder à la sensibilisation, et là il faut le reconnaître.
Le président du parti Mouvement des Patriotes Tchadiens pour la République, un autre opposant, ne partage pas cet avis.
Quels sont les moyens de sensibilisation pour l'opposition? L'utilité populaire est interdite. Depuis 2016, l'opposition ne tient plus de meeting. Mais dans quel pays du monde, dans un système démocratique, on interdit l'opposition d'avoir accès aux médias d'État?
Pour Aladon Balthazar Jarman, l'opposition n'a pas encore fini de jouer sa carte.
Nous vous informons qu'on a saisi plus de 1000 copies d'actes de naissance préétablies pour enrôler des mineurs dans la province de Logone Oriental. Nous allons nous fixer, après la compilation, à demander même que le fichier soit audité. Parce que la loi prévoit que pour être électeur, il faut disposer d'au moins 18 ans. Mais certaines images qui circulent sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a même des bébés qui sont faits enrouler.
Selon la CENI, la population est recensée et estimée à 2 millions. Et aujourd'hui, plus d'un million et 300 électeurs sont déjà recensés. Et donc, l'objectif est largement atteint pour aller aux élections. Et même s'il faut proroger la date, seul le président Déby est habilité à le faire par un décret et non la CENI. André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le tube de pop sud-africain Jérusalem est passé en tête en octobre sur Shazam et a dépassé 200 millions de vues sur YouTube. On a vu des vidéos des gens du monde entier danser sur son beat, y compris des prêtres et des soldats, sans oublier des stars comme Cristiano Ronaldo. Notre correspondante en Afrique du Sud, Valérie Hirsch, a rencontré Master Keiji, co-auteur de Jérusalem, avec la chanteuse Nomsebo Zikode. Reportage.
Le succès mondial de Jérusalem Challenge fait la fierté des Sud-Africains comme Lerato Mbali, une policière qui a appris à danser avec ses collègues.
C'est une très belle chanson. C'est un chant religieux qui est devenu une chanson de danse. Nous sommes contents, nous chantons. Nous sommes tristes, nous chantons. C'est la mentalité des Sud-Africains.
Jérusalem est sorti fin 2019. En février, un groupe de danseurs d'Angola a inventé les pas. Leur vidéo a inspiré le Dance Challenge sur les médias sociaux. Master KG explique l'origine du tube.
I just wanted something spiritual. I wanted also to get the vocals that can match that spiritual.
Je voulais juste quelque chose de religieux. Je voulais aussi que le chant s'accorde à la spiritualité du rythme. J'ai pensé à un Nomsebo Zikode. Nous nous sommes rencontrés et c'est venu. Jérusalem. Et on l'a enregistré. Le Dance Challenge a aussi beaucoup contribué au succès aujourd'hui. La COVID-19 a également joué un grand rôle. Les gens étaient chez eux et ils ont pu danser, trouver du réconfort. C'est une chanson qui rassemble tout le monde, c'est le tube de la COVID-19.
Le titre a dépassé les 200 millions de vues sur YouTube. Joël Kenan est son distributeur en Afrique du Sud.
C'est le plus gros titre africain de l'histoire, c'est aussi simple. C'est plus grand que tous ces gros artistes nigérians. En tant que titre, pas en tant qu'artiste. Et c'est très rare des titres comme ça. Parce que ce sont les consommateurs qui ont décidé que c'était leur chanson. Bon, là en France, ça fait, même en Europe, mais en France, je crois qu'on a été numéro un des charts radio, mais toutes charts confondues, on a été numéro un pendant 4 ou 5 semaines. Et je crois qu'on est encore dans les top 3. Donc c'est un titre qui est d'abord très joué en radio, qui n'a pas l'air de s'essouffler non plus. Les gens l'adorent. Titre qui est intéressant parce qu'il réunit les gens. Il réunit les familles. C'est le vaccin qu'on a attendu. Il est arrivé avant, grâce à cette chanson-là.
La semaine dernière, Master KG et Nomsebo Zikode ont joué à Kinshasa, où ils ont même rencontré le gouvernement congolais.
Nous avons été reçus comme les superstars que nous sommes. C'est incroyable de voir que les gens chantaient aussi nos autres chansons.
D'autres concerts sont prévus en Afrique cette année et l'an prochain en Europe, si le Covid le permet. Master 4G espère aussi conquérir le continent américain. Valérie Hirsch à Johannesburg pour Voice of America, Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Michel Joseph, Georges-Léonard Sagnon, Joselle Morissin et Lionel Gaïma. À la présentation, Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voaafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.